Ben d'abord, j'aimerais remercier Nigel qui, je pense, pave la voie pour ma communication, justement, parce que je continue dans la avec le corps masculin au 19e siècle, justement, mais moi, je vais aller le chercher dans son intimité, en fait. Donc, je commence. Donc, au lendemain de la Révolution française, suite à l'abolition des distinctions accordées par les titres de noblesse et la mise en place d'une conception rousseauiste de la citoyenneté, la construction de l'identité individuelle, tout autant que la lisibilité du corps social, deviennent pour le moins problématiques. Du point de vue de la virilité et du système de représentation, de valeurs et de normes qui la constituent, et qui, selon l'historien Alain Corbin, atteignent au 19e siècle leur emprise maximale, cela implique bien des conséquences. Être un homme, un vrai, signifie dorénavant de pouvoir en faire la preuve. Pierre Bourdieu, dans son ouvrage La domination masculine, définit alors la virilité non comme une notion éminemment relationnelle, construite devant et pour les hommes et contre la féminité, dans une sorte de peur du féminin. Donc, comme on l'a vu, et comme le rappelle l'historienne Lynn Hunt, l'abolition de toute déférence envers les rois, les reines, les nobles et les riches semblait remettre en question la déférence de l'épouse envers son époux, des enfants envers leur père. Les révolutionnaires eux-mêmes éprouvèrent le besoin de marquer la limite à ne pas dépasser, de bien signaler que les femmes étaient du côté du privé et les hommes du public. L'injonction de virilité participe alors du dimorphisme sexué de l'espace qui associe l'homme à la sphère publique, espace de représentation par excellence, tandis que la femme se voit confinée dans l'espace privé qui la protège tout autant qu'il la contient. Et pourtant, virilité, masculinité et intimité s'entrecroisent constamment dans les imaginaires. Non seulement la virilité appuie-t-elle sa validité sur un critère fondamentalement intime pour l'homme, soit sa puissance sexuelle et sa capacité d'engendrement, mais les romans offrent aussi à voir de nombreuses scènes domestiques privées où les hommes tiennent la vedette. Émile Zola, dans les 20 romans qui composent les Rougon-Macquart, confirme alors ce constat par sa représentation récurrente du cabinet de toilette où ce sont près d'une dizaine de figures masculines que l'on voit évoluer. Je vous propose ainsi de nous pencher aujourd'hui sur trois de ces figures emblématiques du rapport entre intimité et virilité au cabinet de toilette zolien. Donc, apparaissant dans les habitations bourgeoises à partir de la seconde moitié du 19e siècle, le cabinet de toilette est une pièce à part entière, qui joue un rôle prépondérant dans la hiérarchie des appartements. Il est un signe du statut de l'habitant et aussi de son rapport à la propreté, élément de respectabilité. Bien qu'à cette époque, on distingue cabinet de toilette et salle de bain, de même que lieu d'aisance, ces trois acceptions se rencontrent et se fusionnent chez Zola, le romancier accordant à cet espace des caractéristiques fluctuantes selon les circonstances où il nous est présenté. Rien d'étonnant à ce phénomène, nous indique la sociologue et spécialiste de l'architecture privée Monique Eleb, puisque le flottement dans le choix des dénominations est tout à fait caractéristique de cette période de mise en place d'un dispositif nouveau, porté par les avancées du discours hygiéniste et par les transformations urbaines haussmanniennes, qui facilitent l'accès à l'eau et normalisent son usage à partir de 1853. Refuge par excellence, pièce intime où la régulation de soi n'est plus nécessaire, faute de spectateurs pour en valider les effets, le cabinet de toilette zolien ouvre ainsi un point de fuite inédit dans les représentations littéraires du masculin et nous entraîne dans une intimité familière et pourtant dérobée, pour reprendre les mots de l'historien Georges Vigarello, de la vie privée des hommes. Notons avant toute chose que les Rougon-Macquart, tels qu'ils nous sont présentés en 1871 dans La fortune des Rougon, sont, et je cite, « une sale famille ». C'est de la bouche d'Antoine Macquart, fils illégitime de Tandide, qu'émerge l'insulte. La sale famille que la nôtre. Notre famille est une sale famille, c'est triste, mais c'est comme ça. Cet appel à un lexique fondé sur l'opposition du propre et du sale, qualité essentiellement organique, pour qualifier les caractéristiques morales de la famille, établit alors d'emblée un rapport intrinsèque entre le physique et le moral dans l'économie romanesque. À cette époque où les thèses philo-mnémoniques foisonnent. Mais surtout, ce que Zola soulève par cette référence à la saleté, c'est bel et bien le pouvoir révélateur que la représentation de l'hygiène, qu'elle soit symbolique ou physique, quant à la nature des individus et donc quant à l'éventuelle virilité des hommes, possède. Et c'est là que le cabinet de toilette, dans son rapport au genre masculin, entre réellement en jeu. De cette sale famille, une tâche sort effectivement du lot dans la fortune. Macquart, ivrogne, hypocrite et paresseux, ne fait pas bonne figure en société. On dit qu'il est sous l'influence nerveuse d'Adélaïde, sa mère. Les vices qui, chez le père, avaient une sorte de franchise sanguine, prenaient chez le fils une sournoiserie pleine d'hypocrisie et de lâcheté. Antoine appartenait à sa mère par un manque absolu de volonté digne, par un égoïsme de femme voluptueuse qui lui faisait accepter n'importe quel lit d'infamie, pourvu qu'il s'y vautrât à l'aise et qu'il y dormît chaudement. Par ce portrait, Zola éloigne donc Antoine de l'idéal viril prôné au 19e siècle, fondé sur la bravoure, la vigueur et la volonté. Néanmoins, ce personnage fait preuve d'une virilité indéniable aux yeux de son jeune neveu Silvère, étant donné ses convictions politiques républicaines. Théoriquement, par son inclination politique, Antoine Macquart rejette la supériorité bourgeoise au profit d'une valorisation de la démocratie sociale et donc de la fraternité, fraternité virile notamment. Mettant toujours en théorie le bien de tous avant le sien, il fait partie des vrais hommes, selon Silvère, qui dit « Si nous triomphons, il faudra que je leur dise leurs faits à ces beaux messieurs. » C'est l'oncle Antoine qui en sait long là-dessus. Ici, l'apparence soignée du bourgeois conservateur est d'ailleurs traitée par Silvère comme le symbole d'une supériorité méprisante face au peuple, au lieu de se vouloir un signe de respectabilité. En outre, et comme le souligne le jeune homme, alors que passent les contingents des insurgés à proximité de Plassans, Antoine connaît de vrais hommes et s'inscrit dans une communauté masculine qui peut valider sa virilité. « Le contingent de Chavanoz, dit-il, il n'y a que 8 hommes, mais ils sont solides. L'oncle Antoine les connaît. » Enfin, Macquart exalte un rapport à la virilité s'établissant sur la moralité en incitant son neveu à le joindre dans sa lutte contre Félicité et Pierre Rougon, qui ont usurpé son héritage. « Si tu étais un homme, disait Antoine en finissant, tu viendrais un jour avec moi et nous ferions un beau vacarme chez les Rougon. » Or, c'est justement Antoine que l'on retrouve enfermé contre son gré au cabinet de toilette, parce que ce républicain tapageur est séquestré par son frère, dans celui du maire, M. Garçonnet, pendant la nuit de révolte qui anime Plassans au lendemain du coup d'État qui donne naissance au Second Empire. Ce nom, Garçonnet, pour la question qui nous occupe, n'est pas neutre. En soumettant le nom de famille du maire à une infantilisation toute sonore dans le nez final ajouté au mot « garçon », Zola neutralise le genre masculin et le fait entrer dans un rapport étroit avec l'enfance, certes, mais également avec le féminin, puisqu'au 19e siècle, les enfants sont d'un sexe indéfini jusqu'à la puberté et donc vacillent aisément entre les deux. De se retrouver dans le cabinet de toilette, lui hautement féminin, d'un monsieur Garçonnet, apparaît, nous le verrons, comme l'indice d'une virilité toute vacillante pour celui qui se retrouve. Ainsi, on ne s'étonnera pas que dans les quelques pages qui composent la scène d'intimité au cabinet, se joue une rencontre avec le féminin, définie dans l'imaginaire de l'époque non pas comme un caractère biologiquement sexué, mais plutôt comme un système de valeurs dont l'homme doit chercher à se dissocier. Lors de cette scène de rap, rapidement, une dialectique s'établit entre convictions politiques, associées aux sphères publiques masculines et morales, et désir de luxe, qui désigne plutôt le privé, le féminin et le corps. Ainsi, après 2 jours d'enfermement, Macquart éprouvait des envies de briser la porte à la pensée que son frère se carrait dans la pièce voisine et il se promettait de l'étrangler de ses propres mains lorsque les insurgés viendraient le délivrer. Mais on peut également lire que, le soir, au crépuscule, il se calma, il cessa de tourner furieusement dans les 3 cabinets. Il y respirait une odeur douce, un sentiment de bien-être qui détendait ses nerfs. Le divan était moelleux et tiède, des parfums, des pommades, des savons garnissaient le lavabo de marbre et le jour pâlissant tombait du plafond avec des voluptés molles, pareilles aux lueurs d'une lampe pendue dans une alcôve. De cette rencontre avec de la force et d'une mollesse délicieuse, émerge une réflexion toute particulière et peu démocratique chez Macquart. Cela le fit penser amèrement à sa vie manquée. L'idée lui vint qu'il avait peut-être fait fausse route. On ne gagne rien à fréquenter les gueux, il aurait dû ne pas faire le méchant et s'entendre avec les Rougons. Jean-Louis Cabanès a bien montré la porosité entre corps et décor dans l'univers zolien. Ici, le luxe du cabinet de toilette, les promesses d'aisance et de bien-être que sous-tendent le mobilier et les accessoires contaminent les convictions politiques du personnage. Ce renversement se développe tout au long de la scène, et bien que Macquart rejette l'idée de trahir la bande insurrectionnelle, les tiédeurs, les souplesses du divan continuent à l'adoucir, à lui donner un regret vague. Après tout, les insurgés l'abandonnaient, ils se faisaient battre comme des imbéciles. Il finit par conclure que la République était une duperie et que, décidément, il aurait dû se vendre à la réaction. En pensant cela, il lorgnait le lavabo, pris d'une grande envie d'aller se laver les mains avec une certaine poudre de savon contenue dans une boîte de cristal. Si nous sommes loin d'une scène de torture, le personnage est néanmoins soumis à une dure épreuve de maîtrise de soi, puisqu'il est tiraillé entre des idéaux républicains dont il se fait l'égérie en société, surtout aux yeux de Silvère, et ses propres aspirations individuelles, que souligne ici son goût pour les objets de toilette bourgeois. La scène de jouissance intime qui clôt l'épisode signe alors le triomphe de l'individualisme à venir, mais aussi de l'Empire bientôt en vigueur. La tentation devient trop forte. Macquart s'installa devant le lavabo. Il se lava les mains, la figure, il se coiffa, se parfuma, fit une toilette complète. Il usa de tous les flacons, de tous les savons, de toutes les poudres. Mais sa plus grande jouissance fut de s'essuyer avec les serviettes du maire. Elles étaient souples, épaisses. Il y plongea sa figure humide, y respira béatement toutes les senteurs de la richesse. Par ce nettoyage aux allures de traîtrise politique, Makar se lave de ses convictions républicaines. La narration le confirme. Quand il fut pommadé, quand il sentit bon de la tête aux pieds, il revint s'étendre sur le divan, rajeuni, porté aux idées conciliantes. Il éprouvait un mépris encore plus grand pour la République depuis qu'il avait mis le nez dans les fioles de M. Garçonnet. Rappelons que pour le père du naturalisme et bien d'autres avant lui, avec lui, le Second Empire est une époque de luxe et de ramollissement moral. La virilité chez Zola est donc une valeur républicaine. La scène de toilette intime scelle donc le sort des derniers élans républicains dans le roman, tout en reléguant pour de bon le personnage de Makar hors du spectre de l'idéal républicain et donc viril. En février 1870, Zola déplore déjà cette rencontre néfaste des hommes avec un luxe tout féminin. « Voilà que nos hommes deviennent des femmes », écrit-il dans le journal La Cloche. Il précise cette idée dans la préface de La Curée, dans laquelle il écrit « avoir voulu représenter l'homme-femme des sociétés pourries » par le personnage de Maxime qui, faut-il s'en étonner, apparaîtra dans un cabinet de toilette à deux reprises, une première fois dans La Curée et la seconde dans L'Argent. Cette conception d'une neutralisation du sexe chez la génération issue du Second Empire, dans un siècle où pourtant la virilité et ses injonctions règnent en maître, en dit long sur la symbolique du petit crevé, expression attestée à l'époque pour signifier la dégénérescence morale et physique des hommes efféminés, et dont on a déjà entendu parler, dont Maxime est la figure éclatante. Outre la serre, qui accueille les ébats incestueux du jeune homme avec sa belle-mère Renée, le cabinet de toilette apparaît également comme un espace de prédilection pour la rencontre interdite des corps. Chaque pièce, avec son odeur particulière, ses tentures, sa vie propre, leur donnait une tendresse différente, écrit Zola. Mais sous la tente de couleur chair, au milieu des parfums et de la langueur humide de la baignoire, Renée se montra fille capricieuse et charnelle, se livrant au sortir du bain, et ce fut là que Maxime la préféra. Si Maxime fait preuve d'une vigueur sexuelle tout à fait virile dans le cabinet de Renée, sa représentation au cabinet de toilette dans L'Argent, le 18e volume de la série, nous renseigne plutôt sur la défaillance virile qu'il incarne. Alors que Madame Caroline, une amie de son père, se rend chez lui pour tenter de l'intéresser au sort de Victor, qui est son demi-frère illégitime, on accède par une porte grande ouverte au luxe de son cabinet de toilette. Au sortir du bain, il venait de passer un élégant costume de flanelle blanche, la peau fraîche et embaumée, avec sa jolie tête de fille. Par la porte, on entendait encore l'égouttement d'un des robinets de la baignoire, tandis qu'un parfum de violentes fleurs montait dans la douceur de l'eau tiède. En faisant mention de ce parfum violent, le narrateur nous livre un indice quant au mal pathologique qui croît dans cette pièce et affecte qui le respire. Madame Caroline, connue pour son courage et sa droiture d'esprit éminemment virile, s'en trouve dépourvue lorsqu'elle entre en contact avec le cabinet. Elle hésitait maintenant, écrit Zola, balbutiait, saisie de ce grand luxe, de ce raffinement jouisseur qu'elle sentait autour d'elle. Une lâcheté la prenait, elle ne retrouvait plus son courage à tout dire. Ainsi, la visite du lieu d'intimité affecte les personnages dans leur nature profonde. Le cabinet de toilette, parce qu'il est fondamentalement associé au luxe, à la jouissance et au féminin, devient un espace dangereux qui pervertit les meilleures natures. L'hypocrisie du lieu tient à la propreté tout extérieure qu'il permet, car l'apparence de propreté, Zola le sait, n'est pas le gage d'une âme noble. Ce que comprend d'ailleurs Madame Caroline en faisant le rapprochement entre Maxime et son demi-frère, fruit d'un amour ancillaire et qui est reconnu pour sa sauvagerie et sa violence, alors qu'elle regarde le valet de chambre de Maxime emballer le nécessaire de toilette de son maître. Pendant que Maxime s'en allait vivre d'oubli et de paresse, sous le clair soleil de Naples, elle eut brusquement la vision de l'autre, rôdant un soir de noir dégel, affamé, un couteau au poing, dans quelques ruelles écartées de la Villette ou de Charonne. N'était-ce pas la réponse à cette question de savoir si l'argent n'est point l'éducation, la santé, l'intelligence? Puisque la même boue humaine reste dessous, toute la civilisation se réduit-elle à cette supériorité de sentir bon et de bien vivre? La propreté parfumée, l'argent et le luxe, loin d'embellir, cache la boue humaine, du bourgeois comme du voyou. Mais alors, que se passe-t-il quand c'est la classe populaire qui fait usage de ce qui, pour elle, correspond au cabinet de toilette? Maheu, patriarche d'une famille de mineurs dans Germinal, fait sa toilette dans un baquet posé au centre de l'une des rares pièces de l'habitation qu'il occupe dans le coron. Rapidement, c'est un tout autre phénomène qui se produit. La scène de toilette intime donne accès à la fois à la vigueur physique, à la vigueur sexuelle et à l'endurance du mineur. Comme il s'apprête à s'installer près de la cuve, les enfants sont renvoyés d'un geste afin de laisser le père profiter de son intimité. Une intimité toute relative, puisque sa femme et leur plus jeune fille demeurent dans la pièce. Mais par ce renvoi des enfants, Maheu évacue l'enfance et s'établit d'emblée comme un homme fait. D'ailleurs, la présence de sa femme et de sa fille témoigne de la nudité triomphante du mineur. L'énergie dépensée dans le bain, où le corps est raclé énergiquement des deux poings par Maheu, qui va même jusqu'à s'user la peau, présente une vigueur tout à fait virile. Ici, malgré la férocité du brossage, on voit bien que Maheu ne révèle aucun rapport au féminin, excepté un rapport hautement érotique. En effet, la Maheude participe elle aussi au grand nettoyage, ce qui excite le désir du baigneur. Il aimait qu'elle le savonnât, qu'elle le frottât partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules tandis qu'il se raidissait, afin de tenir le coup. Du dos, elle était descendue aux fesses, et lancée, elle poussait ailleurs, dans les plis, avec un torchon. Oui, c'était dans les plis, ne laissant pas une place du corps sans y passer. Maintenant, elle l'essuyait, le tamponnait avec un torchon, aux endroits où ça ne voulait pas sécher. Lui, heureux, éclatait d'un gros rire et l'empoignait à plein bras. Toujours le bain finissait ainsi, elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis à lui passer partout des linges qui lui chatouillaient les poils des bras et de la poitrine. Il la poussait vers la table, goguenardant en brave homme qui jouit du seul moment de la journée, appelant ça prendre son dessert, et un dessert qui ne coûte rien. On comprend d'ailleurs par ce jeu de mots la fluidité qui règne entre les espaces. Salle de bain et cuisine partagent ici le même lieu. Cette mixité spatiale renvoie au caractère mixte, mais non ambigu, du corps de Maheu. Sur sa peau blanche, d'une blancheur de fille anémique, les éraflures, les entailles du charbon laissaient des tatouages, des greffes, comme disent les mineurs, et il s'en montrait fier, il étalait ses gros bras, sa poitrine large, d'un luisant de marbre veiné de bleu. La scène de bain vise donc ici à rendre compte d'une virilité tout naturelle chez le personnage, telle que l'a définie Pierre Larousse dans son grand dictionnaire universel. Le corps de l'homme a acquis cette forme carrée, ce développement du thorax, cette solidité des muscles, cet air mâle et assuré qui caractérise l'homme fait. L'homme est plus propre aux actions fortes, il a plus de vigueur de muscles, nous dit-il. Or, comme nous l'avons vu dans l'imaginaire du 19e siècle, le physique est garant du moral et atteste ici d'une virilité complète alliant le corps et l'esprit chez Maheu, qui deviendra une figure héroïque de la Révolution dans le roman. Dans l'univers zolien, la virilité est donc une valeur qui se gagne à coups de travail, de sueur et de conviction, notamment républicaine. Comme elle se gagne, elle peut se perdre également, et peu s'en faut pour basculer dans la neutralisation des caractères virils chez les représentants masculins de la société du Second Empire. Par ailleurs, si elle permet la rencontre des corps avec la femme, en tant qu'actrice fondamentale de l'assouvissement du désir masculin et de la procréation, la rencontre avec le féminin est quant à elle mortifère pour la virilité. La femme revigore l'homme et le rend plus fort, alors que le féminin amollit et mène à la dégénérescence. Dans les Drougon-Macquart, la décadence du Second Empire et la dégénérescence héréditaire sont donc fortement liées à une virilité qui, loin d'être naturelle, se vaut plutôt culturelle et dont le féminin apparaît dans comme les coulisses dangereuses. De là, l'importance d'observer les constructions masculines qui, nous l'avons vu, s'insèrent jusqu'au cabinet de toilette et dont les trois figures analysées aujourd'hui ne sont qu'un maigre échantillon. Là où normalement rien ne saurait être montré, s'établissent aussi des codes et des normes qui témoignent certes de l'emprise triomphante de la virilité au 19e siècle, mais aussi de ces métamorphoses qui ne vont pas toujours du côté des archétypes. Archétypes. Ouais. Merci.